Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Emmanuel Macron veut une Europe puissante et souveraine. Le chef de l'État a livré sa vision pour l'Union européenne, dont la France va prendre la présidence. Entre les lignes, quelques messages pour Éric Zemmour et la question de sa candidature beauté en touche. Détail dans un instant. Le champion olympique de natation, Yannick Agnel, en garde à vue pour des accusations de viol sur mineurs. Une enquête a été ouverte. Explication dans ce journal. Les contaminations quotidiennes au Covid toujours au sommet. Le plan blanc devrait bientôt être étendu à tout le territoire. Reportage à suivre à l'hôpital de Toulon. Méfiance avec les lingettes et autres désinfectants, des dizaines de produits ménagers dangereux pour la santé, alerte 60 millions de consommateurs. La météo, ce sera un sérieux cocktail d'hiver, de la pluie, de la neige et du vent. 10 départements en vigilance orange, on y reviendra en détail avec Marlène Duret. On prendra aussi le droit de rêver au retour de l'été avec l'invité éco, le patron de camping.com. Et enfin, on découvrira les unes des journaux de demain matin. L'exercice est rare pour Emmanuel Macron. Pendant 2 heures cet après-midi à l'Élysée, le chef de l'État a tenu la 2e conférence de presse de son mandat. Au menu, l'Europe. La France va prendre le 1er janvier la présidence tournante de l'Union européenne. Vous avez suivi cette conférence de presse pour Europe 1, Jacques Serret. Emmanuel Macron a donc détaillé ses projets pour l'avenir de l'Europe. Que faut-il en retenir ?
Eh bien, cette conférence a d'abord été une présentation visuelle, un logo tricolore pour la présidence du Conseil de l'Union européenne, la présentation d'une nouvelle pièce de 2 euros avec un nouveau dessin dédié à cette présidence. Et puis Emmanuel Macron a annoncé le calendrier des prochains mois. Un discours le 19 janvier à Strasbourg, un sommet des dirigeants de l'Union européenne et de l'Union africaine en février à Bruxelles pour, je cite, un New Deal économique avec l'Afrique ou encore une conférence sur les Balkans occidentaux en juin. Le chef de l'État a longuement défendu pendant plus d'une heure de discours une certaine vision de l'Europe, une Europe puissante, plus souveraine, avec par exemple un service civique européen de 6 mois pour les moins de 25 ans. Emmanuel Macron a également proposé de repenser le cadre budgétaire de Maastricht. Surtout, il a exposé son souhait de voir aboutir une réforme de l'espace Schengen pour mieux contrôler l'immigration.
Nous initierons sous cette présidence une réforme de l'espace Schengen autour d'un pilotage politique à travers des réunions régulières des ministres en charge de ces questions. Et pour pouvoir renforcer les contrôles aux frontières et d'avoir une politique cohérente de maîtrise de nos frontières extérieures.
L'Europe était donc bien le sujet de cette conférence de presse, mais à 4 mois de la présidentielle, on a aussi beaucoup d'autres questions en tête. Jacques, Emmanuel Macron n'a pas pu échapper aux questions sur la situation du pays.
Oui, comment va-t-il conjuguer ces deux fonctions, la présidence française du Conseil de l'Union et en même temps son mandat et sa très probable campagne ? La question lui a été posée, d'autant plus que la présidence du Conseil court jusqu'au 30 juin et donc se terminera après la présidentielle.
Nous n'avons pas choisi le calendrier, c'est comme ça. Alors est-ce que toutes les sensibilités politiques ont la même perception de cet agenda ? À coup sûr, non. Mais je pense que cette présidence française, nous pouvons la tenir. Peut-être que la politique de la France changera. À coup sûr, la France restera la France.
Sera-t-il candidat ? Cela ne fait que peu de doutes, mais il ne s'est toujours pas déclaré. Les journalistes ont donc insisté après 1 heure de questions-réponses. Emmanuel Macron, lui, élude.
Je ne répondrai évidemment pas à votre dernière question ce jour, mais je veux simplement vous dire, mais c'est normal que vous la posiez, je le respecte tout à fait, et je pense que d'ailleurs, si demain, je ne sais pas où je suis dans la nature, et que l'un d'entre vous est là, vous me la poserez. Et je le prends très bien. D'abord, je le prends comme un signe d'affection. Un désir caché. Presque un appel.
Voilà, donc la déclaration de candidature, on l'a bien compris, attendra encore pendant cette conférence de presse. Jacques Serret, le président de la République, a aussi été interrogé sur la candidature d'Éric Zemmour sur ses thèmes de campagne. Et pour les réponses, il fallait lire entre les lignes.
Absolument, Emmanuel Macron n'a pas une fois prononcé son nom, mais que ce soit dans son discours comme dans les réponses apportées, c'est bien Éric Zemmour qu'il visait.
D'abord, il n'appartient pas au président de la République, quel qu'il soit, de qualifier ou disqualifier un candidat à une élection à venir. Quand les vents mauvais reviennent, il est légitime qu'il y ait des choix démocratiques, que toutes les voix s'expriment. Mais le rôle de nos institutions est de tenir le pays là où il doit être. Ne rien concéder, ni au racisme, ni à l'antisémitisme, ni à la remise en cause de nos valeurs, ni à la manipulation de notre histoire.
En résumé, cette conférence de presse, la 2e du quinquennat, aura duré un peu plus de 2 heures. 1 heure de discours, 1 autre heure pour 10 de questions. À 4 mois de la présidentielle, même s'il ne le dit toujours pas, Emmanuel Macron dévoile un peu plus sa facette de candidat et surtout l'axe de sa campagne, l'Europe, qu'il veut transformer en argument, comme marqueur face à ses concurrents eurosceptiques.
Merci Jacques Serret. Vous avez donc suivi pour Europe 1 cette conférence de presse du président Macron cet après-midi à l'Élysée. Entre les lignes, le chef de l'État a donc pris pour cible Éric Zemmour, qui est ce soir l'invité de l'émission politique sur France 2. Le candidat Zemmour s'en est encore pris avec virulence ce soir au président de la République.
J'assume la dureté. Je pense qu'Emmanuel Macron, je parle évidemment de ses idées, oui, est le néant intellectuel, est le néant idéologique. Est-ce que vous savez ce qu'il pense vraiment ? Est-ce que vous voyez comment on peut savoir ce que pense le président de la République ? Je vais vous donner deux exemples, si vous me permettez. Le même homme est capable de dire « la colonisation est un crime contre l'humanité » et quelques années plus tard, il dit « le FLN, le parti qui dirige l'Algérie, profite d'une rente mémorielle ». Le même homme, au début de son mandat, dit « nous allons réduire le nucléaire, c'est fini, etc. » 5 ans plus tard, il annonce
« mais quand même,
6 réacteurs, 12 réacteurs, etc. » Je peux continuer comme ça.
Vous parlez des idées, il n'y a pas que les idées. Vous dites il y a 2 jours, ce type n'est pas fini.
Qu'est-ce que ça signifie ? Je voulais dire intellectuellement et idéologiquement.
Voilà, Éric Zemmour qui assume ses propos ce soir sur France 2. Une nouvelle escalade entre Paris et Londres dans la crise des licences de pêche. Le Royaume-Uni fait savoir qu'il ne reconnaît pas la date de demain vendredi comme date butoir pour régler le litige. La ministre de la Mer, Brigitte Girardin, a prévenu que la France irait au contentieux dès demain si toutes les licences de pêche demandées ne sont toujours pas accordées. Qu'il s'agisse de cette question des licences de pêche ou de la crise migratoire dans la Manche, le gouvernement britannique ne fait pas ce qu'il dit, juge le chef de l'État qui appelle donc Londres à travailler de bonne foi avec la France. Yannick Agnel passe cette nuit en garde à vue. Le champion olympique de natation accusé de viol sur une jeune mineure âgée de 13 ans à l'époque des faits présumés. Vous avez plus d'éléments sur cette enquête en cours qui vise Yannick Agnel, William Molinier.
Oui, il a été interpellé à son domicile parisien la mi-journée. Il était aux alentours de midi et quart. Les enquêteurs l'ont ensuite transféré à Mulhouse où il est actuellement placé en garde à vue. Mesure qui survient après la plainte cet été d'une jeune femme auprès des services de police. Selon nos informations, elle accuse l'ancien champion olympique de natation de viol pour des faits qui remontent à l'année 2016. Elle avait alors 13 ans. Il s'agit d'une nageuse du Mulhouse Olympique Natation. En 2016, Yannick Agnel était licencié de ce club avant de prendre sa retraite sportive cette même année, juste après les Jeux Olympiques de Rio. Cette garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures. Elle survient dans le cadre d'une commission rogatoire ouverte par un juge d'instruction. Cela veut dire que les policiers ont donc eu plusieurs mois pour recueillir des témoignages et se faire une idée de la crédibilité des accusations portées par la plaignante. Deux services de police ont été chargés de cette enquête, la police judiciaire de Mulhouse et l'Office central pour la répression des violences aux personnes. C'est un office à compétence nationale qui est spécialisé dans les atteintes sexuelles commises à l'encontre des mineurs.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Pierre Ménès a lui aussi été placé en garde à vue ce jeudi. L'ancien chroniqueur sportif interrogé par la police judiciaire, il doit répondre d'accusations d'agression sexuelle sur une hôtesse du Parc des Princes le 20 novembre dernier. C'était après le match PSG Nantes. Pierre Ménès dément tout geste déplacé. Et puis la justice prononce un non-lieu en faveur de Luc Besson. Le cinéaste était accusé depuis 3 ans de viol par Sam Van Roy. « Je ne lâche rien », a aussitôt tweeté l'actrice alors que son avocat annonce qu'il va faire appel de ce non-lieu. Près de 57 000 Français contaminés au Covid dans les dernières 24 heures. La circulation très élevée du virus met le système hospitalier sous pression. Le plan blanc est déjà activé dans les hôpitaux de 7 régions et selon Olivier Véran, le ministre de la Santé, eh bien ce n'est plus qu'une question de jours pour qu'il soit mis en place sur tout le territoire. Le plan blanc actif déjà en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Reportage Frédéric Michel à l'hôpital de Toulon.
À l'hôpital Sainte-Muse de Toulon, en pneumologie, il y a 35 lits disponibles. Aujourd'hui occupés aux 3/4 par les malades du Covid. Mais le nombre de lits n'est pas le seul problème. Le docteur Clarisse Odiger-Valette est responsable du secteur Covid au centre hospitalier intercommunal de Toulon-la-Seyne.
Ce ne sont pas les lits. Il faut pouvoir équiper ces lits avec du personnel. Et à la période des fêtes de Noël, c'est très très compliqué. Passer en plan blanc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut réfléchir à récupérer du personnel qui avait prévu d'être absent et qui est également épuisé par les précédentes vagues. Donc c'est notre gros souci.
À Toulon, ce week-end, 23 lits seront réservés pour les patients Covid et 11 lits pour les autres malades. Une situation tendue en raison de ce manque de personnel.
Ce qui est très compliqué de chercher des gens dans d'autres services, c'est que le non-Covid est très présent et qu'il faut soigner tout le monde. Donc il n'est pas question de sélectionner les patients en fonction de leur provenance, s'ils sont vaccinés, pas vaccinés, s'ils ont Covid, pas Covid. Nous, on n'est que médecins, donc que soignants, donc on soigne tout le monde sans aucun critère discriminant. discriminatoire.
Et le docteur Clarisse Odigé-Valette d'insister sur l'importance de la vaccination. Plus de 50% des patients Covid hospitalisés à Toulon ne sont pas vaccinés. Toulon, Frédéric Michel, Europe 1.
Et puis n'oubliez pas que si vous avez envie d'aller danser ce soir est votre dernière chance jusqu'au 6 janvier prochain, puisque dès demain et parallèlement à la fermeture des discothèques, il sera interdit de danser dans tous les bars et restaurants de France, et cela pour limiter bien sûr la circulation du virus. Dans l'ombre du Covid, un autre virus progresse, cette fois dans les élevages français. Après les abattages massifs de l'an dernier, les éleveurs redoutent un retour en force de la grippe aviaire qui avance à bas bruit dans les exploitations. Dans le Nord, 5 élevages infectés en 2 semaines. Simon Hameux de la FDSEA du Nord est inquiet pour les prochaines semaines.
Le risque est très très important avec son que les contaminations continuent. On est visiblement, toutes les analyses ne sont pas terminées, mais sur une souche très virulente et hautement pathogène. Et puis pour les semaines qui viennent, on craint le pire parce qu'on n'a pas identifié la source, donc on ne sait pas qu'est-ce qui contamine les élevages. Donc on a un gros doute sur la faune sauvage, hein, puisqu'on est en période migratoire. Et le souci avec la faune sauvage, c'est qu'on ne la maîtrise pas, donc elle continue à se promener. Ça engendre l'abattage total de l'élevage. Sur les périmètres concernés, d'ici un mois, il n'y a plus de poulets dans les périmètres concernés. Il n'y a plus de volailles.
Simon Hameux de la FDSEA du Nord avec Océane Théard. On a appris la disparition ce jeudi de Maryse Wolinski, romancière et journaliste. Elle était la veuve du dessinateur Georges Wolinski, tué dans l'attentat contre Charlie Hebdo. Maryse Wolinski avait 78 ans.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Attention à vos produits d'entretien. Attention aux désinfectants que vous gardez sans doute à portée de main depuis le début de la crise sanitaire. Tous ces produits ne sont pas vos amis. Selon le magazine 60 millions de consommateurs, un tiers de ces produits sont potentiellement nocifs pour votre santé. Et parmi eux, Louise Salé, l'un des produits les plus utilisés depuis l'arrivée du Covid.
C'est effectivement le cas pour le désinfectant. On l'utilise pour nettoyer les poignées de porte et beaucoup de surfaces en ce moment exposées au Covid. Mais une utilisation prolongée est potentiellement dangereuse pour la santé. C'est ce qu'explique Sophie Kwan, elle est rédactrice en chef adjointe du hors-série 60 millions de consommateurs, sur le danger des produits ménagers.
Les nettoyants désinfectants purifiants, qui sont censés retirer 99,9% des bactéries, contiennent des molécules souvent irritantes et qui peuvent irriter les muqueuses, qui peuvent irriter la peau. Ils contiennent de l'alcool qui est asséchant.
Plus généralement, il faut se méfier de tous les mélanges complexes parce qu'ils peuvent contenir plusieurs de ces substances qui ne sont pas seulement irritantes.
Il y a des substances qui peuvent être cancérigènes. On n'est pas certain qu'elles le soient. Elles sont étudiées. Et il y a des substances qu'on suspecte d'agir sur les hormones.
Plus un produit est simple dans sa composition, mieux c'est. La meilleure solution reste encore de le fabriquer soi-même, ce qui a en plus l'avantage d'avoir un moindre impact environnemental.
Louise Salé. Pour la première fois, une femme prend la direction de Roland-Garros et du Masters 1000 de Paris-Bercy. À 42 ans, Amélie Mauresmo succède à Guy Forget à ce poste stratégique pour le monde du tennis. Elle va bien sûr y apporter son empreinte, Axel May.
Eh bien, déjà, Amélie Mauresmo devient la première femme à occuper ce poste. C'est même seulement la deuxième femme à prendre la tête d'un tournoi du Grand Chelem après la Canadienne Stacey Alaster, actuelle patronne de l'US Open. Amélie Mauresmo apporte également sa renommée internationale, sa dimension marketing, a même dit le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton. L'ex numéro 1 mondial est respecté, apprécié dans le milieu, fort caractère, réputé très indépendante aussi. Et parmi ses premiers objectifs, elle aimerait que Roland-Garros devienne le tournoi préféré des joueuses et joueurs.
Il y a 4 tournois du Grand Chelem, on voudrait être déjà le préféré des joueurs et des joueuses. Le chouchou, ça c'est évident parce que je pense qu'il y a certaines choses sur lesquelles on ne pourra pas, peut-être pas rivaliser, en tout cas le faire différemment, mais en tout cas sur l'accueil, la proximité, ça je pense qu'on peut déjà impacter. Déjà voilà une première réponse sur les 2-3 ans. Pour le reste, de façon plus large, je vais avoir besoin d'un petit peu de temps.
Amélie Mauresmo, 42 ans, va continuer à habiter à Biarritz. Hein, son contrat court jusqu'au jeu de 2024 et elle succède donc à Guy Forget avec qui le président de la fédération avait des avis divergents à la fois sur le périmètre, le travail et sur l'aspect financier.
Axel May du service des sports d'Europe 1. Merci Axel. Si d'aucuns en doutaient encore, non, le chant du coq n'est pas une nuisance sonore. Ainsi en a décidé la cour d'appel de Chambéry qui infirme donc une décision de première instance contre un agriculteur de Haute-Savoie avait été condamné justement pour troubles anormaux du voisinage alors qu'un couple se disait gêné par les cocoricots de son coq. Eh bien, l'agriculteur obtient gain de cause en appel. Son poulailler vivra et la campagne avec. Tout va bien. Le temps pour ce vendredi, Marlène Durand. soirée. Vous avez beaucoup de choses à nous dire ce soir, Marlène. Oui. Hein, on commence avec cette alerte orange en cours dans 10 départements du Sud-Ouest et des Alpes.
Absolument, 10 départements. On peut même rajouter la principauté d'Andorre. Hein. Alerte d'abord aux avalanches dans les 5 départements des Pyrénées, plus l'Isère, plus les Deux-Savoie. Double alerte pour l'Ariège, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Alors, avalanche, plus les pluies inondations. Et puis des alertes aux crues dans les Landes et le Gers. Et les Pyrénées-Atlantiques cumulent les 3. Avalanche, pluie, inondation et crue. Pluie et vent, donc pour le Piémont pyrénéen, vous l'aurez compris, Alexandre, avec une limite pluie neige qui va remonter cette nuit avant de redescendre à 1200 mètres demain après-midi. Pendant ce temps-là, la neige aura fondu. Ça va rajouter de l'eau à l'eau de la pluie. Et la houle sur la côte landaise va gêner l'écoulement des pluies, donc prudence. Voilà pourquoi tous ces départements sont placés en alerte.
Oui, la prudence est de mise, effectivement.
Quant à la perturbation d'aujourd'hui, elle se décale et on va la retrouver sur une petite moitié est demain matin avec des précipitations sous forme de neige du plateau Lorrain à l'Alsace et aux Alpes, en passant par la Franche-Comté, l'Est de la Bourgogne et le Lyonnais, jusqu'en plaine, la neige. Comptez 1 à 3 cm.
Ah, quand même.
Oui, jusqu'à 5
cm. Bon, le ski de fond, Marlène.
Oui, si c'est possible, pourquoi pas. Jusqu'à 5 cm dans le nord-est. À partir de 300 mètres, on attend 5 à 10 cm. Et au-delà de 500 mètres, prévoyez 20 à 40 cm, voire plus, de la neige en montagne.
En abondance.
Vous en vouliez, vous en aurez. Un dernier mot sur les températures. Fera froid demain. Hein. Demain matin, en tout cas, vers le massif central, jusqu'aux régions du nord-est et du centre-est, entre 0 et moins 2 degrés. Bon, il y a pire, hein, mais enfin bon, voilà, il faut le savoir. Et puis en journée, elle monte dans le sud-ouest. Ailleurs, ça ne bouge pas beaucoup. 4 à 8 degrés du Limousin en allant vers le nord-est et les Hauts-de-France. 7 à 12 degrés ailleurs. Et puis allez, on peut monter jusqu'à 14 du côté de Perpignan.
Merci Marlène. Nouveau point météo avec vous à minuit. Dans un instant, c'est Top à Wall Street avec Claire Lemaître. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
Top à Wall Street avec Claire Lemaître. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com, après 3 séances de hausse, c'est l'heure de la pause à la bourse de New York.
Avec un Dow Jones qui est parfaitement stable à 35 754 points, le Nasdaq lui chute de 1,71% après, il faut le dire, un très bon début de semaine. Beaucoup de prudence avant les chiffres demain de l'inflation aux États-Unis pour le mois de novembre. Elle pourrait frôler les 7%, c'est beaucoup. Et c'est sans doute de quoi pousser la Réserve fédérale à réagir et à se montrer moins souple, moins accommodante. C'est justement le scénario que les marchés redoutent. Et donc, on sera fixé sans doute mercredi prochain avec la réunion de la Fed. Alors, les plus fortes baisses du jour sont pour Intel, moins 2,4%, ou pour l'avionneur Boeing, moins 1,6%. Du rouge aussi pour Uber. La Commission européenne a présenté aujourd'hui une proposition pour donner aux personnes qui travaillent via les plateformes numériques de meilleurs droits et avantages sociaux. Uber lâche donc plus de 3%. Et puis le pétrole avait repris plus de 8%, lui, depuis le début de la semaine. Le baril WTI marque donc une pause, moins 1,5% ce soir, au-dessus de 71 $.
À Paris, c'est une nouvelle séance dans le rouge pour le CAC 40 qui parvient tout de même à se maintenir juste au-dessus des 7000 points.
Oui, la pause se poursuit à Paris. Le CAC 40 est quasi stable, moins 0,09%, 7008 points, avec à nouveau un peu de pression sur le plan sanitaire. Ça pèse, comme souvent, sur les valeurs liées au tourisme et à l'aéronautique. On a Air France KLM qui perd plus de 2%, moins 1,6% pour Airbus. Et puis EDF recule de 2%. Le gouvernement envisagerait de nouvelles mesures pour empêcher les prix de l'électricité de trop augmenter. Information du Figaro et sanctions pour EDF qui perd donc 2% ce soir.
C'est beaucoup mieux en revanche pour Interparfum qui devrait signer une année 2021 encore meilleure que prévu.
Claire. Oui, ça va décidément très bien pour le créateur de parfums sous licence de grandes marques de luxe. Interparfum a revu une nouvelle fois à la hausse ses perspectives pour cette année. Le titre monte de plus de 3% et puis Lagardère bondit de près de 5%. Vivendi va acquérir dans les prochains jours la participation du fonds Amber Capital dans Lagardère qui est propriétaire d'Europe 1. Vivendi déposera début 2022 une offre publique d'achat au prix de 24,10 € par action. Ailleurs, en Europe, c'est la prudence qui domine sur les marchés. Londres perd 0,2%, moins 0,3% pour le DAX à Francfort, Madrid moins 0,9%, Amsterdam moins 0,7%, Milan gagne tout de même 0,2%. Et à Paris, le CAC 40 perd 0,1%, 7008 points ce
soir. Merci Claire Lemaître de boursier.com. Noël approche et vous le savez bien, on entre dans les jours les plus courts de l'année. Il fait nuit à 17h, on manque tous de lumière. C'est donc une très bonne raison de penser aux prochaines vacances d'été. L'invité éco ce soir, Jérôme Mercier, directeur général de camping.com. Il répond à Emmanuel Dutheil.
Bonsoir Jérôme Mercier.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de camping.com. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, hein, c'est une belle entreprise française, leader européen de la réservation d'hébergement de plein air sur Internet. Je me permets de préciser que camping.com, c'est avec un S, un camping. Alors certains se disent, mais pourquoi donc là, comme ça, en plein mois de décembre, on s'intéresse aux campings alors qu'ils sont tous fermés? Il paraît que c'est en ce moment que l'on commence à regarder pour nos vacances d'été, voire pour certains, à réserver. C'est vrai, décembre, c'est un mois stratégique pour vous?
Eh bien, c'est le début des réservations pour 2022 et c'est stratégique parce qu'on est en train d'apprécier le comportement des Français dans cette période qui est toujours en crise sanitaire. Et donc, ça nous permet de comparer la performance et le volume des réservations par rapport à 2020 et 2019 pour comprendre si les Français sont prêts à se projeter.
Alors bah dites-nous, est-ce qu'ils sont prêts à se projeter comme vous dites?
Eh bien en fait on voit malgré toute la communication qui est toujours un peu anxiogène que oui les Français commencent à réserver, on a nous une belle croissance des réservations et du volume de trafic sur notre portail campings.com qui permet d'offrir un moteur de recherche auprès de 3500 établissements qui sont référencés et qui donnent une vraie lisibilité sur l'offre de l'hôtellerie de plein air en France et en Europe.
Vous dites donc, malgré la communication, mais finalement cette communication anxiogène et les restrictions qui sont renouvelées, pardonnez-moi de le dire ainsi, mais c'est presque une bonne nouvelle pour vous parce que certains doivent se dire, allez hop, c'est rebelote, on va être obligé de rester en France encore l'été prochain.
Oui, d'ailleurs c'est ce que l'on voit très clairement dans les réservations. On voit que les Français commencent à réserver leurs vacances pour l'été 2022. Par contre, on voit une timidité ou un phénomène d'attentisme peut-être face aux réservations pour les vacances de Pâques qui ont été finalement confinées des années successives. Et donc on voit bien ça sur l'ensemble de nos canaux de distribution. Hein, nous on distribue en direct, également en indirect auprès de comités d'entreprise. On travaille également avec tous les réseaux d'agences de voyage. Donc ça nous donne une vraie lisibilité et on comprend malgré tout que les Français commencent à se projeter très clairement pour l'été 2022.
Alors, ils se projettent et plus qu'en 2019, hein, si je comprends bien ce que vous nous dites depuis le début de cette interview, Jérôme Mercier. Quelles sont les régions qui en profitent?
Toujours les belles régions françaises, bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, on a une très grosse croissance pour les réservations en Espagne et en Corse. Encore une fois, je trouve que ça donne une certaine lisibilité sur ce marché qui montre que les Français commencent à se dire qu'ils vont pouvoir repartir à l'international. Et d'ailleurs, l'offre à l'international devient de plus en plus solide.
Est-ce que, par ailleurs, c'est indispensable, encore plus qu'avant maintenant, de promettre l'annulation gratuite et quasi jusqu'au dernier moment pour pouvoir convaincre les gens de passer à l'acte d'achat?
Oui, évidemment, toute l'offre de services autour de la réservation, elle est clé. Hein. Nous, on met ça en avant. Donc, des assurances, des conditions d'annulation, c'est extrêmement important. C'est un vrai levier sur la conversion, sur la prise des réservations de notre audience.
Ce qui est aussi très important du côté du camping, c'est que là, on parle des vacances de Pâques, on parle de l'été. L'autre point très important, c'est que la saison est de plus en plus longue au camping. On a pu voir là, septembre, octobre, jusqu'aux vacances de la Toussaint, même paraît-il. Est-ce que ça s'est confirmé? Est-ce que l'après-saison a été très bonne?
Oui, il y a une belle après-saison. C'est aussi porté par l'offre d'hébergement qui s'est premiumisée. En fait, on voit avec l'arrivée des locatifs qui sont de mieux en mieux équipés que finalement on peut passer de très belles vacances hors saison avec un panier d'achat qui est finalement extrêmement compétitif dans des établissements qui sont toujours très très bien placés avec donc des services qui permettent aux vacanciers de passer de très bons moments et de très bons moments en famille.
Alors vous le disiez, hein, c'est bien parti. En tout cas, ça se présente plutôt bien pour les réservations pour cet été, du côté de l'Espagne, du côté de la Corse, du côté de certaines régions françaises. Mais il y a une grosse incertitude encore. C'est est-ce qu'il y aura des touristes étrangers comme d'habitude, en tout cas comme dans l'ancien temps, comme en 2019 en France cet été? Est-ce que vous les voyez eux aussi commencer à s'intéresser sur votre plateforme à la destination France?
Oui, on voit ça. Alors, on voit un volume de visites. La conversion en termes de réservation, elle est encore un petit peu en dessous de ce que l'on voit sur les marchés domestiques. Mais malgré tout, évidemment, tout le monde commence à regarder et à certainement partager en famille quelques idées vacances. Et donc, on voit malgré tout un bon trafic aujourd'hui sur nos sites. Bon, nous, on a cette particularité, hein. On a une plateforme qui se développe très rapidement à l'international. On a enregistré une belle croissance l'année dernière avec 74% de croissance. On est une entreprise de croissance et on continue à investir à l'international pour accompagner nos campings partenaires, pour aller chercher des clients à l'international, notamment au Benelux, en Espagne.
Mais parce que qui sont vos clients? Ce sont les grands terrains de camping ou ça peut être vous, moi, qui avons peut-être un mobilhome dans un camping en France et qui voulons le louer quand on ne l'utilise pas?
Alors, nous, on travaille avec on met en avant une offre de professionnels. Malgré tout, l'hôtellerie de plein air est un marché extrêmement fragmenté, qui est un marché d'indépendants. 96% des campings en France, sur les 8000 campings français, sont tenus par des indépendants, souvent des établissements à taille humaine. Et donc nous, c'est finalement la raison d'être de notre moteur de recherche et de réservation, c'est permettre à nos clients de rechercher, de filtrer, de trouver le meilleur établissement et d'apporter cette lisibilité sur l'offre HPA qui est extrêmement riche.
Eh ben merci beaucoup pour tous ces détails. On espère qu'on pourra avoir des vacances à peu près normales l'été prochain. Un grand merci à vous, Jérôme Mercier. Je rappelle que vous êtes le directeur général de camping.com, camping avec un S. Et nous, on se dit à lundi. Très bon week-end à vous tous.
Merci à vous, Emmanuel Duteil. On vous retrouve d'ici là, demain, bien sûr, avec Elisabeth Assayag de 13h à 14h pour La France Bouge sur Europe 1 à l'occasion du Salon Nautique International qui se tient jusqu'à dimanche à Paris Expo. Et bien, vous recevrez demain le vice-président de la Fédération Nautique.
C'était l'invité éco avec BNP Paribas. Levée de fonds, entrée en bourse et développement international, choisissez la banque référente des entreprises. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
Voyons les unes de vos quotidiens pour demain vendredi 10 décembre. Comme Europe 1, les journaux ont suivi avec attention la conférence de presse d'Emmanuel Macron qui lance sa campagne d'Europe, titre Les Échos, le chef de l'État qui a détaillé l'agenda très fourni de la prochaine présidence française de l'Union européenne, alors que le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz sera en visite officielle ce vendredi à Paris. Emmanuel Macron en campagne conclut Libération. Moi, président de l'Europe, c'est la une de Libé. Rien toutefois sur son éventuel, faut-il dire, probable d'ailleurs, candidature à la présidentielle. Le président Macron a refusé de répondre à cette question. À 4 mois de l'élection, la gauche dans l'impasse, constate Le Figaro. Rejetée par ses concurrents, la proposition d'une primaire de la gauche émise par Anne Hidalgo illustre les divisions et la faiblesse de la gauche française, écrit Le Figaro. Une gauche dont l'électorat ne cesse de se réduire. C'est vrai que, eh bien, sondage après sondage, aucun candidat de gauche n'atteint pour ce scrutin à venir la barre des 10%. 22h30 sur Europe 1. Nous sommes avec Olivier Delacroix qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Olivier, avec un large sourire.
Bonsoir mon cher Alexandre. Très dispo, exactement. C'est l'info qui me fait sourire, mais bon. Ah là 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 là, pauvre France.
Je vous vois.
Mais oui, c'est triste quand même que cette gauche ne soit pas plus forte. On aurait assisté. Bon, on va assister quand même à une élection présidentielle passionnée et passionnelle.
Beaucoup de choses vont évidemment se produire d'ici 4 mois. Ce ne sont que des sondages et les lignes vont encore bouger.
Oui, et il le faut en plus.
Et il le faut
pour tout l'intérêt.
Pour la démocratie.
Exactement, pour tous les Français. Nous sommes d'accord, mon cher.
Bon.
Nous discuterons en coulisses de nos intentions. Bon, ça va, tout va bien ?
Tout va bien.
Tout s'est bien passé jusqu'à maintenant ?
À merveille.
Bon, eh ben écoutez, on va essayer de continuer sur cette dynamique, donc. Et puis on se retrouve tout à l'heure à 23h pour votre flash.
À tout à l'heure,
Olivier. À tout à l'heure.